La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux.
Il n'y a pas d'édito enflammé sur le communautarisme blanc.
De sujets moins sérieux.
Ça peut être des bois sculptés à partir de formes naturelles interprétées.
De ce qui se passe en Ile-de-France.
Je me disais qu'à Paris, on était en avance sur la province.
Et de débats pas forcément consensuels.
Parlez-nous un peu de cette coupe menstruelle.
Tous les jours, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h sur le 93.9.
Aujourd'hui, il a fait beau. Un grand soleil qui a fait de cette journée une de celles qui redonne un peu le sourire. Parmi ces journées où on se sent un peu plus léger, le 27 février dernier en était une très belle, surtout pour les militants et militantes écologistes. Premièrement, la Cour européenne des droits de l'homme a reconnu la responsabilité de l'État dans la mort de Rémi Fraisse. Le militant de 21 ans avait été tué par un policier alors qu'il participait à un rassemblement de lutte contre le projet du barrage de Sivens. Et 10 ans après, la France est condamnée pour non-respect du droit à la vie. C'était déjà une belle nouvelle pour la famille, les amis et les militants et militantes qui avaient été marqués par la mort de Rémi Fraisse. Mais ce n'est pas tout, car jeudi dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'autorisation environnementale qui permettait la construction de l'autoroute A69, ce qui annule et rend illégal le projet d'autoroute. C'est une décision historique, mais c'est surtout l'aboutissement et la réussite de plus de 15 ans de lutte sur le territoire. Pour rappel, la 69, c'était un projet d'autoroute qui devait relier Toulouse et Castres. C'était un projet inutile, notamment car les villes sont déjà reliées par la très efficace Nationale 126, mais c'était surtout un projet dévastateur et écocide qui nécessitait l'abattage de milliers d'arbres et l'artificialisation de plus de 300 000 hectares de terres agricoles et d'espaces naturels. Alors forcément, ce projet était contesté par des milliers de personnes. Il y a eu des pétitions, il y a eu des grandes manifestations qui ont un écho national, mais contre l'autoroute, il y a surtout eu une lutte quotidienne et ancrée dans le territoire. Ce sont quelques centaines de militants et militantes qui se sont engagés contre l'État et contre le concessionnaire Atosca à travers des recours juridiques, à travers l'occupation des arbres à abattre, des zones à défendre et d'autres modes de lutte encore. Cette décision, qui a sans surprise été contestée par l'État qui a annoncé faire appel, eh bien elle illustre aussi les contradictions de l'appareil judiciaire. Parce que si l'autoroute est annulée, cela ne répare pas la répression violente et arbitraire qui s'est déployée contre les opposants et opposantes à la 69. En plus des 130 poursuites judiciaires contre des opposants, la police et la gendarmerie ont harcelé les militants engagés contre le projet, avec des contrôles d'identité systématiques, des violences verbales et physiques, allant même jusqu'à des actes correspondant à de la torture, avec de la privation de sommeil et de ravitaillement pour les militants assiégés dans les arbres. En somme, vous l'avez compris, l'arrêt de la 69, c'est une très belle nouvelle qui redonne un peu d'espoir pour les autres luttes en cours. Et même si de nombreux dégâts ont été causés par les travaux, ce sont 53 km de linéaire et presque 300 000 hectares qui ne seront pas bitumés. Alors merci aux militants et militantes qui ont lutté de toutes leurs forces et vivent les luttes environnementales. Ce soir, dans la matinale, nous recevons la musicienne Clélia Abraham, qui a sorti son album Atacama le 7 février dernier. Ce sera à 19h35 avec Alice, restez avec nous. À 19h30, Isnel fera le tour de l'actualité avec un flash info. Et ce soir, nous aurons deux chroniques dans la matinale, puisque Francesca vous parlera de management toxique et que Fabien vous présentera des infos insolites. Mais tout de suite, on parle des élections qui ont eu lieu en Allemagne le 23 février dernier avec Elisa Gudenstein-Mann, professeur des universités à la Sorbonne Nouvelle, qui répondra aux questions de Théophile.
La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
Et pour commencer cette matinale, je le disais, nous recevons Elisa Gudenstein-Mann, professeure des universités et directrice du département d'études germaniques et franco-allemandes à l'université Sorbonne Nouvelle. Bonsoir.
Bonsoir.
Et pour mener cette interview à mes côtés, il y a Théophile. Salut Théophile.
Salut.
Je te laisse la parole.
C'est ça, tu l'as bien rappelé, le 23 février dernier se tenaient les élections fédérales anticipées en Allemagne dans un contexte de crise gouvernementale après la chute de la Ampelkoalition, donc feu tricolore, emmenée par Olaf Scholz depuis 2021. Vous en avez peut-être entendu parler après le soutien assumé d'Elon Musk au parti AfD ou plus récemment à la suite des résultats, notamment en vue de la très forte montée de l'extrême droite et de ce parti néo-nazi aux élections. Ces élections donc, ont finalement vu l'emporter la CDU-CSU, le parti conservateur démocrate chrétien emmené par Friedrich Merz, qui doit désormais monter une coalition et entamer ses négociations le vendredi 28 février. Pour cela, nous avons Elisa Goudin-Steinmann, que tu as très bien présentée, et qui va répondre à nos questions. D'abord, donc, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous rappeler quels ont été les thèmes et grands enjeux de cette campagne qui a été très courte, un mois ?
Oui, la campagne a été beaucoup plus courte que prévu parce que, comme vous l'avez dit, la coalition Feu Tricolore n'a pas pu durer jusqu'au bout parce que les libéraux en sont partis. Donc, il y a eu des élections anticipées qui ont pris un peu tout le monde de court. Alors, les thèmes principaux, le thème principal qui était imposé par l'AFD, c'était le thème de la politique migratoire. Tous les partis se sont positionnés là-dessus parce qu'il y a eu aussi, il se trouve qu'il y a eu des attentats pendant la période de la campagne électorale. Donc ça, c'était vraiment, on peut dire, le sujet numéro un, ce qui n'est pas habituel en Allemagne. Hein. Ce n'était pas le cas, par exemple, lors de la campagne précédente. On avait parlé beaucoup moins en Allemagne de politique migratoire qu'en France, par exemple. Mais là, ça a été vraiment le thème omniprésent partout. Et ensuite, il y avait quand même d'autres thèmes, comme les difficultés économiques, par exemple, parce que l'Allemagne est pour la troisième année en récession. De suite, qu'elle n'est pas habituée à... Enfin, c'est le pays du miracle économique allemand, le pays qui s'en était mieux sorti après la crise de 2008, qui était sorti plus vite du Covid, etc. Et là, l'Allemagne multiplie les difficultés économiques. Et puis après, il y avait aussi d'autres sujets, plus ou moins d'impôts, plus ou moins d'État, comment est-ce qu'on va s'allier ensuite, comment est-ce qu'on se positionne, par exemple, sur le changement climatique, etc. Mais le sujet numéro un, c'était les mouvements migratoires et en deux, l'économie, les principaux sujets.
Donc vous l'avez dit, le principal sujet apparemment était les thèmes migratoires et qui ont été en partie réinvestis par le parti qui a gagné la CDU, qui a poussé une loi durant le mois de la campagne et qui a failli être nommée. Donc qui en sont au final les gagnants et les principaux perdants de cette élection ?
L'AFD, c'est une victoire pour l'AFD, de toute évidence. Elle a doublé son nombre de voix par il y a 3 ans et demi. Elle va avoir beaucoup plus de députés, donc aussi beaucoup plus d'argent public, puisqu'on touche une somme qui dépend du nombre de députés qu'on a. Par contre, elle va rester en dehors du pouvoir, puisque personne ne veut s'allier avec elle. Pour l'instant, en tout cas, il y a ce qu'on appelle un cordon sanitaire. En allemand, on dit Brandmauer, qui tient bon. Donc ça, c'est une victoire claire. On parle aussi de victoire des chrétiens démocrates, même si c'est le deuxième pire score de leur histoire, mais quand même, c'est eux qui sont devant tous les autres, donc c'est quand même eux qui ont remporté les élections. C'est plutôt une victoire malgré tout, 20%, 30% pardon, pour les chrétiens démocrates. Après, les autres partis ont tous perdu, tous ceux qui gouvernaient ont perdu des voix. Les libéraux sont carrément exclus du Parlement. Les sociaux-démocrates et les verts font des scores qui sont décevants. Le seul qui tire son épingle du jeu, c'est le parti Die Linke, le parti donc à la gauche des sociaux-démocrates. C'est un peu l'équivalent de la France insoumise ici. Qui, lui, a fini avec 8%, ce qui est beaucoup mieux que ce qu'on lui prédisait au départ, parce que certains pensaient même qu'il ne passerait pas la fameuse barre des 5%. Donc, ils ont plutôt bien réussi. Mais là aussi, il n'y a pas d'alliance a priori possible avec les chrétiens démocrates, donc ils vont rester en dehors du pouvoir. Donc, en gros, c'est une victoire relative des chrétiens démocrates et une victoire très claire de l'AFD.
D'accord. Et donc, en sortant de ça, vous avez par exemple parlé du Brandmauer, donc du cordon sanitaire allemand. À quelle coalition s'attendre et est-ce qu'il y a un risque, vous n'avez dit pas immédiatement, mais à moyen terme, peut-être long terme, de voir l'AFD entrer un jour dans cette coalition ?
Suite à ces élections-là, il n'y a à peu près aucun risque. On ne peut jamais dire aucun risque parce qu'on a vu en Autriche que l'extrême droite avait failli quand même, alors que les conservateurs avaient dit aussi on ne le fera jamais. Et puis finalement, ils ont entamer des négociations. Donc, il a failli y avoir un chancelier d'extrême droite. Puis finalement, non. Donc, bon, il faut être prudent, mais l'Autriche, c'est vraiment un pays différent. Là, il n'y en aura pas. Il n'y aura pas d'AFD qui arrive au pouvoir au niveau national. Par contre, les prochaines élections régionales, il est tout à fait possible que là, au niveau régional, l'AFD arrive au pouvoir. Et les prochaines élections, normalement dans 4 ans, c'est possible aussi que là... je lis pas dans le marc de café, mais là, le risque sera important, en effet, probablement.
Donc, si on ne voit pas rentrer l'AFD au pouvoir, vers quelle coalition doit-on se diriger ?
Alors, le plus probable aujourd'hui, c'est une coalition entre les conservateurs, donc les chrétiens démocrates, et puis les sociaux-démocrates, ce qu'on appelle en Allemagne une grande coalition. Il y en a déjà eu plein. Merkel a beaucoup gouverné sous ce format-là. C'est-à-dire, c'est un peu comme si... on avait une alliance gauche-droite quoi, en France, Parti socialiste et républicain, admettons. Donc, ils vont entamer des négociations qui doivent déboucher sur la signature d'un contrat de coalition. Le plus probable, c'est que les sociaux-démocrates fassent payer assez cher leur soutien aux conservateurs parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'intérêt, eux, à être dans cette coalition. Ils vont être minoritaires dans la coalition. Ils ne vont pas pouvoir décider beaucoup de choses en plus, donc ils vont faire payer cher parce qu'ils n'ont pas trop intérêt en fait à y entrer dans la coalition. En même temps, c'est la seule option possible si on veut que l'AFD reste en dehors du pouvoir. Donc il va quand même falloir trouver un compromis, mais je pense qu'ils vont négocier de façon assez dure. Et tous les projets de Friedrich Merz, donc le futur chancelier chrétien-démocrate, de baisser les impôts, etc., probablement que ça ne se fera pas avec les sociaux-démocrates. Ils vont refuser tout ça. Donc on verra comment ils réussissent à se mettre d'accord, mais en tout cas le moins d'État que veut Friedrich Merz, ça passera pas avec la gauche allemande. Il faut voir. Là aussi, ça va prendre des semaines. C'est comme ça en Allemagne. En attendant, Olaf Scholz, il reste un peu chancelier par intérim, si on veut. Enfin, donc, mais c'est normal qu'après des élections, il y ait plusieurs semaines de négociations. Il a dit à Pâques, il faudrait qu'on ait un contrat. Donc c'est quand même assez rapide.
On voit donc le SPD qui se retrouve dans une position de faiseur de roi, en quelque sorte.
Oui, on peut dire ça, mais en même temps, il avait la chancellerie et il va devenir seulement partenaire junior.
Justement, ça peut amener une question. Est-ce qu'on doit s'attendre à quand même une rupture dans la politique allemande, les orientations ? On peut penser aussi au niveau européen, par exemple. Ou est-ce qu'on doit penser une forme d'immobilisme relatif ?
Ben ça, c'est le risque que du coup, en ne réussissant pas à se mettre d'accord, on arrive à un truc qui paralyse complètement la prise de décision et donc à de l'immobilisme. Ça, c'est le risque principal parce que l'Allemagne a vraiment besoin de beaucoup de réformes. Il y a un problème d'infrastructure, il y a un problème de changement du modèle économique. Parce que le miracle économique allemand, il est basé, tout le monde connaît les voitures et ça, c'est clairement pas l'avenir. Il est basé sur de l'énergie pas chère, illimitée, qui n'existera plus jamais. Enfin, tous les piliers sur lesquels il repose, ils seront plus là, plus jamais. C'est pas juste conjoncturel. Donc, il faut complètement se réinventer. Et du coup, il y a un grand besoin d'inventivité, d'investissement dans des énergies renouvelables, dans d'autres secteurs d'industrie. Enfin, et si on ne fait rien, le risque que l'AFD arrive au pouvoir après est encore plus grand. Donc ça, les deux parties le savent aussi. Et je pense qu'ils vont quand même se mettre d'accord sur un certain nombre de choses. Il faut par exemple, les investissements dans le numérique, c'est quelque chose qui partage. Le soutien à l'Ukraine, c'est quelque chose qui partage. Donc, je pense que les deux, quand je dis « ils », c'est les deux partis qui vont faire très probablement la coalition. Donc, je pense qu'il y aura des choses qui se feront quand même. Je ne vois pas un immobilisme. Enfin, j'espère que non, en tout cas.
Vous parlez justement donc, de développement potentiel d'investissement vers l'avenir. Je pense que certains auditeurs peuvent aussi se poser des questions sur le rapport des conservateurs allemands, peut-être à l'écologie. On connaît le programme allemand appuyé sur du renouvelable et le charbon. Comment est-ce qu'on peut envisager l'avancée sur ce sujet avec cette nouvelle coalition ?
Friedrich Merz, c'est pas un grand défenseur de l'écologie. Il se promène en jet privé pour aller sur l'île de Sylt. Enfin, c'est pas quelqu'un qui va avoir ça comme priorité a priori. À l'intérieur de son parti, il y a quand même des gens qui sont plus sensibles aux luttes écologiques. Donc, et puis les sociaux-démocrates normalement le sont. En tout cas, c'était le programme à l'origine. Il y avait un grand programme en 2021 quand les sociaux-démocrates sont arrivés au pouvoir avec les Verts et les libéraux. Il y avait beaucoup de projets dans ce sens. Et puis, quelques semaines après, la guerre en Ukraine a éclaté. Il a fallu mettre l'argent ailleurs. Ils n'ont pas pu faire ce qui était prévu. Mais en tout cas, les projets étaient là. Donc, on peut espérer que, pour le coup, les sociaux-démocrates essaient d'infléchir la coalition vers une politique plus verte. Ça va être leur projet. Je ne sais pas s'ils vont y arriver.
Merci beaucoup, Elisa Goudin-Schellmann. Alors, ce n'est pas la fin de cet entretien, rassurez-vous. Mais on va se retrouver juste après une petite musique. C'était Kraut de Clutter. Vous écoutez toujours la matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et en studio, nous retrouvons Théophile et Elisa Goudin-Steinmann, professeure des universités et directrice du département d'études germaniques et franco-allemandes à l'université Sorbonne Nouvelle. Et nous décryptons le résultat des élections allemandes qui ont eu lieu le 23 février 2025, les élections fédérales pour rappel. Théophile, je te redonne la parole.
C'est ça, nous étions toujours sur cet entretien donc, et nous avions terminé sur les options de programme de gouvernement et sur l'avenir potentiel, notamment économique. On sait que ces questions économiques et le ralentissement du miracle économique allemand a été un enjeu récupéré en partie par le parti alternatif für Deutschland, AfD, dans sa montée. Et on sait que des difficultés dans cette orientation pourraient participer puisqu'il s'appuie beaucoup sur les inégalités. Madame Lachsenmein, on observe notamment donc l'instrumentalisation de ces fractures allemandes, et on en voit une particulièrement notable sur les résultats, qui est une fracture entre l'ex-RDA et l'ex-RFA. Comment l'expliquer ?
Alors, il y a plusieurs facteurs d'explication possibles. Les différences notables, elles sont en particulier sur le Die Linke, qui a plus de succès à l'Est, et les Verts ont plus de succès à l'Ouest, et l'AfD surtout, c'est là que la différence est vraiment frappante, l'AfD a plus de succès à l'Est. Elle est à presque 30%, elle a gagné quasiment toutes les circonscriptions, elle est première dans presque toutes les circonscriptions de l'Est, donc il y a vraiment la frontière de l'ex-RDA qui se dessine dans la carte électorale de l'AfD, ça c'est très clair. Alors comment l'expliquer ? Il y a certaines personnes qui l'expliquent par le fait que en RDA, on ne racontait pas le nazisme, l'histoire du nazisme comme ailleurs. On disait, nous, on est les héros, les communistes, ceux qui avons résisté. Donc, les fascistes, c'est les autres de l'autre côté. Nous, on n'a rien à voir avec tout ça. Et donc, ça a empêché qu'il y ait une forme d'introspection critique, de réflexion sur le passé. Moi, je ne crois pas du tout, je ne crois pas beaucoup à cette explication parce que c'était il y a 35 ans. Depuis 35 ans, les programmes scolaires sont les mêmes et que cette introspection critique, il n'y a plus rien qui l'empêche. Donc pour moi, ce qui explique le vote AfD, c'est essentiellement les inégalités qui persistent aujourd'hui. Les Allemands de l'Est, ils sont sous-représentés, mais massivement sous-représentés dans toutes les fonctions importantes en Allemagne, au gouvernement, en politique, dans les médias, dans la justice, dans la science, partout, ils sont moins de 20%. 20%, c'est... Ils sont 20% des Allemands, donc ils devraient être 20% dans les élites, entre guillemets. Et par exemple, dans les postes importants de la justice, ils sont 2%, dans les médias, 8%. Enfin, ils sont très en deçà. Donc, il y a très peu d'égalité des chances. Ils sont beaucoup moins nombreux à faire des études supérieures. Les revenus, c'est 13 000 euros de moins pour un Allemand de l'Est en moyenne par an, par rapport à un Allemand de l'Ouest. Donc, c'est phénoménal 35 ans après. On pourrait donner plein de chiffres comme ça, mais voilà, il y a 108 universités en Allemagne, une seule qui est dirigée par un Allemand de l'Est, sur tout le territoire, en l'occurrence par une femme, une Allemande de l'Est. Donc il y a beaucoup d'injustices qui sont frappantes et forcément qui créent un manque d'adhésion à la démocratie, puisque un des mandats de la démocratie, c'est aussi de créer de l'égalité. Alors, elle ne l'a pas fait. Depuis 35 ans, la démocratie n'a pas créé d'égalité des chances. Elle en a créé, mais pas autant que ce qui aurait dû être le cas. Et donc, ça crée beaucoup de ressentiments que l'AfD exploite en choisissant des slogans qui rappellent... Enfin, vraiment, l'AfD s'adresse de façon ciblée à la population est-allemande avec des slogans qui leur rappellent la révolution pacifique, celle qui a mené à la chute du mur. Je donne juste un exemple, le slogan « Wir sind das Volk », ça veut dire « Nous sommes le peuple », c'était le slogan des gens qui manifestaient en 89 pour faire tomber le régime communiste. Ça voulait dire « Nous sommes le peuple », c'est-à-dire « C'est à nous de décider, on veut des élections libres ». Et l'AfD le reprend dans un sens raciste, en disant « Le peuple, c'est nous », c'est-à-dire « C'est pas les étrangers ». Donc ils font ça vraiment sciemment, je pense qu'il y a une vraie stratégie. L'AfD, c'est un parti essentiellement d'Allemands de l'Ouest qui sont venus s'implanter à l'Est pour y faire carrière. Il y a plein d'exemples qu'on pourrait citer, mais voilà, donc ils ont cette stratégie et ça explique les résultats. Donc ça, plus la persistance de nombreuses inégalités des chances, de moins un bon revenu, des gens qui sont moins qualifiés, qui ont moins fait d'études, donc plus de probabilité de voter AfD dans tous les cas. Et l'autre différence importante, c'est que Die Linke est plus fort à l'Est aussi, parce que c'est un parti est en partie héritier des partis, du Parti communiste de RDA. Il n'a jamais vraiment réussi à avoir beaucoup de succès à l'Ouest. Donc c'est un peu le schéma inverse, c'est-à-dire voilà. Et les Verts sont plus forts à l'Ouest pour le coup. Les Verts ont du mal à s'implanter à l'Est. C'est un peu le, enfin là pour le coup oui le schéma inverse. Les Verts ont toujours eu des scores décevants dans l'ex-RDA, puisque donc les Verts c'est souvent, enfin en tout cas c'était souvent des gens plutôt jeunes, progressistes, qui votent à gauche et à l'Est souvent ces gens-là votent plutôt Link par exemple, mais pas pour les Verts. Voilà, donc ça, c'est les différences principales et la façon dont je les explique. Mais après, on pourrait citer aussi d'autres facteurs d'explication. C'est pas, enfin, voilà, y a des facteurs sociologiques aussi. Y a plus d'hommes à l'Est et les hommes votent plus pour l'AFD, puisqu'il y a majoritairement plus de femmes qui ont quitté l'Est pour aller trouver du boulot à l'Ouest que d'hommes, ce genre de facteurs.
Justement, sur ce facteur donc, de la différence genrée du vote, on peut voir que l'AFD a bénéficié d'un ensemble de facteurs d'inégalité, ou en tout cas a pu mobiliser, puisque son vote est très fragmenté. On voit par exemple jusqu'à 10% d'écart entre le vote féminin et le vote masculin.
Oui.
On voit aussi bah, justement cette différence ex-RDA, ex-RFA, Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ouest. Comment est-ce qu'on peut expliquer que l'AFD capitalise si bien sur les inégalités et les oppositions de la société et les fractures de la société allemande?
Ah bah ça, c'est le cas de tous les partis d'extrême droite, en fait. Ils capitalisent toujours sur les fractures, les fractures sociales qui existent. Alors, quand vous disiez fracture genrée, oui, c'est vrai, c'est un parti d'hommes, essentiellement l'AFD, avec le paradoxe qu'ils ont une femme qui était candidate pour la chancellerie, Alice Weidel, qui est... à elle seule, une figure qui rassemble beaucoup de paradoxes. Elle est homosexuelle dans un parti homophobe. Elle est en couple avec une femme d'origine sri-lankaise dans un parti raciste. Elle est femme dans un parti antiféministe. Enfin, on pourrait multiplier. Elle est diplômée, elle a un doctorat en économie et son programme économique, la très grande majorité des économistes disent que ça ferait perdre au moins 3% de croissance à l'Allemagne s'il était appliqué. Il est complètement irréaliste. La machine économique allemande, elle ne tourne que grâce aux étrangers. Enfin, pas que, mais elle ne tournerait pas, en tout cas, sans eux. D'ailleurs, il y a eu des petites vidéos qui ont circulé sur Internet dans les hôpitaux allemands ou les différentes institutions publiques. Tous les employés se sont rassemblés, souvent dans des escaliers. Et ensuite, les étrangères et les étrangers partaient. Et on voyait ce qui restait et que ça pouvait en effet pas marcher dans des restaurants, etc. Donc oui, pourquoi elle capitalise sur les fractures? Parce que c'est la nature même du discours d'extrême droite d'essayer d'instrumentaliser les ressentiments. C'est des gens qui sont souvent en peur du déclassement social et qui du coup en veulent à ceux qui sont encore plus pauvres, encore plus marginalisés qu'eux. Enfin, c'est très classique. Pour le coup, l'AFD ne fait pas exception. Il y a plein d'autres partis comparables en Europe.
Est-ce que ça peut pas être surprenant d'un point de vue français de voir de tels résultats justement de ce type de rhétorique en Allemagne, qu'on connaît aussi pour l'histoire du nazisme, bêtement, surtout quand on voit le parti qui est l'AFD, qui reprend, ne serait-ce que dans son acronyme, il fait évocation au slogan DSA « Alles für Deutschland ». Comment on peut percevoir justement cette sorte de dissonance d'un point de vue extérieur qui ne doit pas l'être d'un point de vue...
Alles für Deutschland, c'est le slogan de DSA et c'était le slogan de ces élections. Ils avaient mis Alice für Deutschland, puisque c'est Alice Weidel. Vu de France, oui, ça fait peur. Nous, on a le Rassemblement national qui a eu la stratégie inverse de dédiabolisation, de montrer une façade présentable. L'AFD a fait tout le contraire. Ils se sont radicalisés de plus en plus, au point que le Rassemblement national ne veut plus siéger dans le même groupe que l'AFD au Parlement européen, tellement ils sont radicaux. Donc oui, c'est très angoissant, vu de partout d'ailleurs. C'est très angoissant pour les Allemands aussi. Hein. Je rappelle qu'il y a seulement un votant sur cinq qui a voté AFD. Tous les autres ont voté contre, plus les gens qui n'ont pas voté. Donc l'immense majorité des Allemands ont peur. Ils sont contre l'AFD. C'est quand même, même si on parle du succès, de la victoire de l'AFD, c'est important de le préciser. Mais c'est vrai que c'est un parti particulièrement radical. D'ailleurs, il a été pour partie déclarée néo-nazie par la, enfin pas néo-nazie mais d'extrême droite de façon sûre par l'Office de protection de la Constitution. Donc voilà, il n'y a pas de doute, quand on écoute Björn Höcke, le leader en Thuringe, il n'y a pas de doute que lui adhère au nazisme. On ne peut pas mettre ça en doute. Mais ce n'est pas comme avant où être nazi était le pire tabou possible en Allemagne. Et ça, c'est plus vrai. Donc, ils n'ont pas peur de multiplier des allusions plus ou moins masquées. Ne serait-ce que le terme rémigration, c'est un terme qu'on n'aurait jamais utilisé il y a 10 ans, qui est un terme nazi. Ben là, ils l'ont utilisé dans tous les discours, à toutes les sauces, tout le temps, pendant la campagne électorale. Enfin, il y a vraiment un tournant vers une détabouisation, le mot n'existe pas, mais un discours complètement décomplexé là-dessus.
Merci, Elisa Goudin-Steinmann. C'est assez triste de se quitter là-dessus. On va essayer de garder un tout petit peu espoir.
Alors, il y a beaucoup de gens qui manifestent contre, qui y a plein d'initiatives ouvertes au monde.
Oui, bien sûr. On peut aussi saluer la percée de Die Linke pour la première fois. Bon, on va essayer. Peut-être que vous reviendrez pour parler cette fois de choses un peu plus joyeuses. Vous êtes professeur des universités à l'Université Sorbonne Nouvelle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Et tout de suite, ne nous quittez pas car c'est le Flash Info.
Bonsoir.
Le flash info de la matinale de 19h.
Bonsoir, merci de m'écouter. Alors, on commence par l'actualité internationale. À Londres, 18 dirigeants européens ont réaffirmé leur soutien à l'Ukraine malgré les tensions récentes entre Zelensky et Donald Trump. Ensuite, le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé la signature d'un accord avec l'Ukraine pour un prêt de 2,26 milliards de livres, soit à peu près 2,74 milliards d'euros, afin de renforcer les capacités de défense de Kiev. Les Européens travaillent également sur un plan de paix qu'ils comptent présenter aux États-Unis pour obtenir des garanties de sécurité face à la Russie. Ensuite, pour ce qui est de l'actualité politique en France, à gauche, la ligne géopolitique est en question. Le rapprochement entre Donald Trump et Vladimir Poutine pousse les partis comme la France Insoumise ou le Parti communiste à chercher un équilibre entre l'évolution du contexte international et la cohérence avec leur ligne politique. Enfin, pour l'actualité culturelle, l'audiovisuel français s'organise pour mieux défendre l'exception culturelle. Ils vont créer une nouvelle organisation, la filière audiovisuelle. Son objectif, protéger les intérêts du secteur en réunissant les producteurs, les sociétés, les droits d'auteur et les diffuseurs parmi les priorités. Garantir un financement public solide pour l'audiovisuel, assouplir les restrictions publicitaires sur les chaînes privées. Voilà, merci de m'avoir écouté et bonne soirée.
Merci Snell pour ce flash info. Et tout de suite, on va écouter un petit peu de musique et on se retrouve juste après. Vous aurez le droit à 2 chroniques. On va parler musique avec Lélie Abraham. Ça va être super, ne nous quittez pas.
T'es de la falaise, t'aimes le mal et tu prends dans tes bras, jusqu'à te sentir partir dans un mal. Tu me claques la porte à la gueule, c'est ma faute. Je t'ai sûrement plus supporté à force, un labyrinthe où la sortie sera dans un fossé. Je regretterai jamais ce que j'ai causé, hein. Laisse parler tes peurs et tes doutes. On va répéter le schéma en boucle, les mêmes journées que la veille, viens pas chez moi en bouge. Comme d'habitude, t'as le silence en bouge, livre que t'as écrit, on s'est engouffré. Michel pleure, il a plus rien à prouver. À part que tout est sombre vu que le soleil se fait trop. Un matin sans lueur, pourra-t-on la trouver avant que tout s'efface? Mais avant que tu t'évades, rappelle-toi qu'un vent était mal. Tu inventes des drames pour oublier que le temps était calme. Baby, avant que tu t'évades, rappelle-toi qu'un vent était mal. Rappelle-toi qu'un vent, tes yeux mentent encore, je pleure. T'étais parfait sans tes mains. Je n'aurais pas fait, tes yeux m'entendent quand j'épouse. Parce qu'on s'est aimé sans y croire en toutes tes promesses illusoires. Tes yeux m'entendent quand j'épouse. Le monde crierait si brûlé à vivre. T'es comme eux, t'es comme moi. moi t'es comme lui, tu caches tes rêves de gosse, mais moi je les réalise. Éloigne-toi de la misère, y'a des espoirs d'enfance sous ta visière. On sépare nos chemins, je suis côté rivière. Un peu d'amour propre et je me lèverai pour briller. Je te ferai du mal jusqu'à ce que je sois dans tes prières. C'est le coin d'un bord, un peu isolé du monde où personne n'y fait attention. On se met dans la porte, l'heure de dehors est aussi fini de ramener des tensions. Leur rancœur s'efface de temps en temps, mais ton cœur se rend tant étrange. J'ai à peine le temps d'y croire, à peine le temps de se dire qu'on aurait dû se ranger. Oui, mais avant que tu t'évades, rappelle-toi qu'on invente des mal. Tu inventes des drames pour oublier que le temps était calme. Oui, mais avant que tu t'évades, rappelle-toi qu'on invente des mal. Rappelle-toi qu'on invente. Oh, tes yeux montent quand j'ai blues. T'étais parfaite sans tes manières, si c'était à faire, j'aurais pas. Tes yeux m'entendent quand j'ai le blues. Parce qu'on s'est aimé sans y croire. Toutes tes promesses illusoires. Tes yeux m'entendent quand j'ai le blues. T'étais parfaite sans tes manières. Si c'était à faire, je l'aurais pas fait. Tes yeux m'entendent quand j'ai le blues. Parce qu'on s'est aimé sans y croire. Toutes tes promesses illusoires. Tes yeux m'entendent quand j'ai le blues.
C'était Blues de Asile, il est 19h35 et vous écoutez toujours La Matinale sur Radio Campus Paris. Et tout de suite,
La Matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
Et tout de suite, pardon, nous avons droit à une petite chronique de Francesca. Salut Francesca.
Salut, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, salut Marwen. Alors, nous avons tous vu la rencontre des deux présidents Trump et Zelensky ce week-end. Évidemment, mon sujet, c'est le management et je n'ai pu m'empêcher de faire la corrélation, bien sûr. J'ai publié sur mon réseau pour en parler. Alors, sans me justifier ce soir, mais surtout pour clarifier, j'ai diffusé une vidéo de l'échange entre le président Trump et le président Zelensky. J'ai capté spécialement et volontairement un extrait pour faire la corrélation avec le management. Une analogie simple qui a suscité débat, de nombreux commentaires. Certains ont compris, d'autres qui n'ont pas pigé. Alors, j'ai fait cette corrélation pour dénoncer une posture. Président ou manager, même posture, même dérive. Le comportement possible. Donc, voir le prisme, l'angle, il n'y a rien de politique là-dedans. Donc je vous le dis, président ou manager, il y a une équipe, des parties prenantes. Ce que nous avons tous vu, ce qui nous a choqués, existe aussi à l'échelle d'une entreprise et même de la vie, je dirais. Peu importe le sujet, c'est-à-dire le fond du message, qu'on ait tort, qu'on ait raison, la manière de transmettre change tout. Il y a différentes manières de dire les choses et la meilleure manière reste toujours celle du respect. Ce comportement est toxique, est à bannir et voici quelques-uns vus dans l'extrait. Il coupe la parole. Il sermonne en public, préférant humilier plutôt que corriger en privé. Il impose des délais comme des évidences, peu importe la complexité du dossier. Vous avez tous entendu, pour ceux qui ont été salariés, c'était pour hier. Il se lance en sauveur, sans moi vous ne saurez rien, transformant évidemment l'aide en faveur exceptionnelle. Ça aussi c'est le manager toxique. Il adopte un ton condescendant, mais curieusement, pas avec tout le monde. Donc les managers toxiques, aux pratiques destructrices en live. Donc ces pratiques sont plus qu'irritantes, elles démotivent et les seules choses qu'on produit avec ce type de comportement sont un climat de peur, une perte de confiance et d'engagement, un stress permanent qui peut amener jusqu'à une rupture de la collaboration. Donc rien de politique, plutôt de sens. Show à l'américaine ou pas, en tout cas je ne suis pas chaude, méthode du négociateur, businessman, peu importe, nous avons tous le droit au respect et à la dignité. Donc voici quelques bons comportements à adopter, manager, salarié, si vous écoutez. Faire preuve d'écoute active, un bon manager c'est écouter sans interrompre et reformuler pour montrer qu'il a bien compris, encourage les collaborateurs et exprime les idées, encourage à exprimer les idées, pardon, et leurs préoccupations. Deuxième, valoriser et reconnaître le travail. La reconnaissance, même simple, booste la motivation. Dire merci, souligner un effort et célébrer un succès crée un climat positif. Donner du feedback constructif. Donc, un feedback utile, factuel et orienté solution. On évite les critiques vagues, ce manque de clarté. Donc voilà, quelques suggestions plutôt que... Enfin, vous comprenez, soyez clair, factuel et encouragé. Encouragez aussi l'autonomie, faire confiance et éviter le micromanagement. Accordez de la liberté sur la manière d'atteindre les résultats et soyez disponible en soutien. Gérez les conflits de manière saine, évidemment. Soyez exemplaire. Les collaborateurs imitent le comportement du manager. Respect, ponctualité, engagement et gérez la charge de travail de façon responsable. Et je peux vous dire qu'un vrai leader en entreprise comme en politique n'écrase pas, il élève. Il ne cherche pas à maintenir les autres en dette, mais leur donne les moyens d'avancer. Et heureusement, vous savez quoi ? Ça existe.
Merci beaucoup Francesca pour cette superbe analogie. Et tout de suite et sans transition, nous allons passer au Zoom.
Le Zoom, dans la matinale de 19h.
Aujourd'hui, du coup, on reçoit Clélia Abraham. Bonjour Clélia.
Bonjour.
Bonsoir plutôt, ouais. Vu l'heure. Du coup, on te reçoit. Toi, tu es pianiste, compositrice de jazz et beaucoup d'autres choses aussi, j'ai l'impression. On te reçoit du coup à l'occasion de la sortie récente de ton dernier album Atacama le 7 février dernier, donc il y a presque un mois. Et du coup, on va pouvoir en parler ce soir. Donc la première question que je me posais avec cet album, c'est le titre Atacama, ça fait penser du coup au désert d'Atacama. Est-ce qu'il y a un lien ? Si oui, pourquoi ? Tout ça.
Et oui, oui, évidemment un lien, c'est en référence au désert d'Atacama que j'ai appelé mon album ainsi. En fait, quand j'ai composé tous les morceaux, qu'on les a tous enregistrés, je me suis demandé mais qu'est-ce qui les relie ? Et j'ai eu une image de ce ciel étoilé. Je suis passionnée du cosmos en fait. Je regarde plein d'émissions sur les étoiles, les trous noirs, les nébuleuses. Ça me fascine complètement et je trouve ça magnifique. Et donc voilà, j'ai eu envie d'appeler mon album comme ça parce qu'on m'a parlé de cet endroit en fait et on m'a dit c'est l'endroit où on peut le mieux observer les étoiles. Donc c'était du coup évident de l'appeler comme ça, ouais.
Une petite métaphore du coup en lien direct avec cet univers céleste. Univers céleste qu'on peut aussi retrouver sur la pochette ou l'univers visuel de cet album et aussi sur les titres. Dans les titres, dans les paroles, quand il y en a, parce que toutes les musiques du coup de cet album n'ont pas de paroles, c'est en effet un vocabulaire céleste. Mais il y a aussi une dimension de spiritualité non, derrière tout ça.
Oui, en fait, je trouve que ça nous remet un peu à notre place de regarder les étoiles. C'est les distances qui sont absolument incroyables. Je trouve que voilà, on se rend compte qu'on est une petite chose quelque part et qu'en même temps, on est relié à cette immensité, à ce grand tout. Donc oui, il y a beaucoup de spiritualité aussi en lien avec tout ça. Ouais.
Et c'est les débuts que tu as fait dans la musique, on en parlait tout à l'heure avant l'émission, c'est aussi une histoire de famille, il y a aussi une transmission qui s'est faite dès ton enfance. Comment ça s'est passé, toi, tes débuts dans la musique ?
Mes débuts étaient dès le ventre de ma mère, puisque mes parents sont musiciens, sont profs de musique. Ma mère est prof de violon, mon père est prof de piano. Donc voilà, ça a toujours été là. Je crois que j'ai commencé le violon à 4 ans, le piano à 7 ans. Il y avait un piano à la maison, donc je m'amusais. J'ai composé, improvisé très jeune, parce que c'était là, quoi. Et on en écoutait beaucoup. Mes frères et sœurs font aussi de la musique. Donc c'est vraiment une histoire de famille. C'est notre culture familiale. C'est autour de la musique, de l'improvisation, du classique, du jazz, de la musique caribéenne. Plein de styles voilà, qui ont été présents, qu'on a appris. Voilà.
Et donc tu as commencé par le violon, c'est ça ? Alors ouais. Que dans ton album, tu fais du violon ou
non,
on t'entend au piano, on t'entend la voix,
ouais.
Et pas au violon.
J'ai lâché le violon, j'en ai fait 10 ans jusqu'à mes 14 ans et après j'ai lâché. Ça me passionnait pas autant que le piano où j'étais vraiment complètement libre. En fait, le violon, je faisais ça au conservatoire, il y avait des examens, c'était un peu sérieux et en fait ça m'a saoulée. donc j'ai lâché ça pour le piano et c'est l'instrument que je pouvais m'exprimer librement, créer créé, c'est un instrument parfait qui est orchestral. Pour composer, c'est vraiment génial. Donc c'était un soulagement de passer sur cet instrument. Donc j'y suis dans cet album et dans tous les, dans tous les autres.
Et tu t'y sens bien, du coup, dans ce piano. Et ouais. Ça se ressent parmi tous tes titres, du coup, de cet album. Donc il y en a une dizaine, 11, si je ne dis pas...
Je crois qu'il y en a 12 en
12,
tout.
Ouais. Ah, pardon, 12. Sur ces 12 morceaux, du coup, tu es au piano. Et tu chantes aussi sur certains. Qu'est-ce qui a fait que... sur certains, tu as voulu aussi poser des textes. Comme, pourquoi pas sur tous? Pourquoi voilà.
Bah alors, ouais. Alors en fait, c'est assez récent que j'écrive des textes. Donc c'est aussi pour ça qu'il y en a. Il y a donc deux chansons en anglais et un poème en français. Voilà, tout simplement parce que c'est assez récent et j'ai plutôt été instrumentiste et chanté. En fait, j'utilise la voix surtout pour trouver des mélodies, pour j'ai une connexion vraiment entre ma voix et mes mains, ça va vraiment ensemble. Donc j'utilise plutôt comme un instrument pour son timbre. Et voilà, je trouve que ça met en valeur les mélodies, la voix. Et donc les textes, ça fait, ouais, je sais pas, peut-être 2 ans que j'écris un peu. J'ai eu envie d'expérimenter aussi ça, ouais.
C'est une continuité de ton instrument, finalement, ta voix, l'instrument vocal. Sur les différents titres, du coup, justement par rapport aux titres, comment est-ce que tu fais pour trouver des titres quand c'est des mélodies qui n'ont pas de paroles? Est-ce que tu composes et après tu trouves un titre qui est en rapport, d'ailleurs, quand on regarde les noms, Orion, Mystique, c'est aussi des titres qui se rapportent à l'univers dont tu nous parlais tout à l'heure. Donc est-ce que tu composes d'abord ta musique et après tu trouves le titre, ou alors c'est d'abord l'histoire qui se déroule sous forme de titre et après tu...
Non, c'est d'abord la musique qui vient et le titre vient après. Et là, ça a été vraiment de raconter une histoire globale avec tout l'album. Et ça s'est fait vraiment après. Donc, il y a des titres que j'ai trouvés une fois que j'avais tout composé, tout enregistré, où j'ai fait des liens. Voilà. Ouais.
D'accord. Et sur ces titres, tu n'es pas seule. Tu travailles aussi avec d'autres artistes, d'autres musiciens. Il y a, par exemple... Toi, donc, tu es au piano et tu chantes, Clélia, mais il y a aussi Kevin Lazakis qui a la guitare, Samuel Fima à la contrebasse. Je suis désolée si j'écorche les noms.
Non, c'est ça.
Ananda Brandao qui est à la batterie. Est-ce que tu peux nous parler de votre rencontre musicale et humaine?
Alors, le premier avec qui j'ai joué dans tout ce beau monde, c'est Samuel Fima, donc le contrebassiste. On joue ensemble depuis une dizaine d'années. Il était là dès les balbutiements du projet, qui était encore en trio à l'époque. J'étais encore étudiante et tout ça. Donc Samuel, c'est un contrebassiste incroyable qui joue dans plein de projets, qui a déjà une énorme expérience et qui a un groove incroyable. Enfin voilà, c'est génial de jouer avec lui. Ananda Brandao, c'est une super batteuse franco-brésilienne que j'ai rencontrée dans un projet organisé par Jazz à Vienne, où on s'est retrouvés au Brésil à jouer avec des musiciennes brésiliennes, et j'ai adoré son jeu, donc j'ai eu tout de suite envie de l'inviter. Et Kevin Lazakis, le guitariste, on s'est rencontrés à l'école Didier Locoud, et en fait on avait déjà fait des concerts ensemble autour de la New Soul, de la musique africaine, et mélangée au jazz. Et voilà, lui, il fait tout un travail sur les textures sonores, les effets, et j'adore vraiment, j'adore comment il joue, j'adore son son et tout ça.
Donc c'est une cohésion qui s'est faite musicalement au moment de l'écriture de tous ces titres. Et j'ai l'impression, dans ce que tu dis, qu'il y a aussi toute une dimension du voyage. Tu parlais du Brésil, où tu avais fait de la musique aussi là-bas. Est-ce qu'il y a des titres que tu as composés, enfin des morceaux que tu as composés là-bas, ou à travers d'autres voyages qui après se sont inscrits dans ce projet-là?
En effet, les deux morceaux brésiliens, surtout, il y en a un qui s'appelle Sao Paulo, que j'ai composé parce que la résidence qu'on faisait avec ce projet franco-brésilien se passait à Sao Paulo. Et je l'avais composé à la base pour ce projet-là, mais il n'y a pas eu de suite, donc j'en ai profité pour le mettre dans mon album. Voilà, c'est ça. Et c'est suite à ça que j'ai aussi composé dans la foulée un deuxième morceau d'inspiration brésilienne, celui qui s'appelle Mabuya.
D'accord.
Et sinon, dans les autres morceaux, y a la musique caribéenne. Bien sûr, je suis allée en Guadeloupe, d'où mon père vient, en Martinique aussi. Donc, toutes ces musiques m'influencent énormément. Il y a beaucoup de musique réunionnaise aussi, même si j'y ai malheureusement pas encore été, mais j'adore cette musique. Voilà, il y a aussi des influences que j'entends à Paris, en étant à Paris, parce qu'il y a un mix culturel incroyable, et sans forcément m'être déplacée dans les pays en question. Mais voilà.
Ok, et donc tous ces musiciens, c'est des artistes qui t'accompagnent depuis longtemps sur des projets, ou alors la rencontre, elle s'est faite pour ce projet-là en particulier?
Bah du coup, comme je disais, le contrebassiste, ça fait longtemps. Le guitariste, c'est vraiment à ce projet-là que ça... Enfin, on avait fait un peu quelques trucs, mais qu'on joue davantage ensemble, c'est depuis ce disque-là. La batteuse, ça fait... c'était il y a un an et demi à peu près, cette rencontre. Donc il y a des temporalités différentes. Oui. Ouais.
Et tout ce mélange a donné naissance du coup à cet album que tu vas aussi produire sur scène, enfin que tu vas faire vivre à travers différentes dates. Les concerts, c'est des moments qui sont importants pour toi, pour faire vivre ta musique?
Oui, c'est en fait pour moi l'essentiel. Oui, les albums, c'est vraiment chouette pour pouvoir la partager, la diffuser plus largement. Mais c'est vrai que ce que je préfère, c'est vraiment la scène. C'est vraiment d'être dans la spontanéité, dans l'échange avec le public, avec les musiciens. C'est tellement vivant, en fait. Donc, pour moi, c'est le cœur de
la
ce que je fais. Ouais. Et je serai du coup en concert pour la sortie de l'album le 2 avril au New Morning à Paris.
D'accord.
Voilà.
J'ai vu qu'il y avait aussi des dates avant, le 7 mars au festival Jazz Alpes, à Grand Serre, je ne sais pas où c'est, dans les Alpes,
ouais.
Jazz Alpes j'imagine, non. Et du coup à Paris la prochaine date c'est le 2 avril.
Voilà, ouais. C'est cette fameuse sortie d'album. Ouais.
Donc on peut te retrouver un peu partout en France.
Voilà, on joue aussi le 29 mars au Jam à Montpellier. Voilà, j'ai pas tout en tête. Je sais qu'on joue à Cannes, on joue à Saint-Brieuc, ouais, dans la Drôme. Enfin voilà, il y a plein de dates. Donc avec plaisir pour vous y retrouver.
Et on a hâte de t'y retrouver sur scène. Merci Clélia Abraham d'avoir été avec nous. Pour rappel, ton album Atacama est sorti le 7 février et on va justement en écouter un extrait avec le tout dernier titre, je crois, Espérance.
Perdus dans l'espace et le temps de ce monde. Et les étoiles nous regardent du haut du ciel, prises de pitié pour nos fragiles corps mortels. La douceur de l'amour, notre quête ultime, nous effleure parfois le temps d'une ou deux rimes. Quand le sol se dérobe sous nos pieds, nous crions. La joie semble soudain n'avoir été qu'illusion. La douleur nous étreint et l'on rêve alors d'un monde où la souffrance est aussi rare que l'or. Nous touchons l'infini du bout des yeux lorsque notre regard se perd dans les cieux. Tant de lumière scintille là-bas au loin, perpétuelle promesse de meilleur lendemain. Le noir de la nuit et ses mystères nous bercent. D'innombrables espoirs aussitôt nous traversent. Le gel devient fraîcheur, la brûlure douce chaleur, et la nature reprend lentement toutes ses couleurs.
Vous venez d'entendre Espérance de Clélia Abraham, l'artiste que nous avons reçue dans la matinale de ce soir. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, il est 19h53.
La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
Et c'était là presque la fin de cette matinale, mais rassurez-vous, avant de nous quitter, nous avons une chronique de Fabien. Bonsoir Fabien.
Bonsoir Maïwenn, et oui, donc moi je vous ai trouvé quelques infos insolites. Et on commence tout de suite, on part en Angleterre. C'est un chat fraudeur qui s'appelle Tilly, elle n'a que 2 ans, et sa passion c'est de prendre les transports en commun dans la banlieue de Londres. Évidemment, elle n'a jamais validé son ticket, mais après son dernier périple, elle est désormais en règle. Donc Tilly, donc c'est le nom du chat fraudeur, prenait déjà régulièrement le bus ou bien allait se caler au pub du coin, pardon. Mais jamais elle avait fait une escapade pareille. En fin de semaine dernière, pour la première fois, elle ne s'est pas contentée d'errer sur les quais. Elle est montée dans un train direction la capitale. Tout le monde la connaît à la gare, elle a pris un train et est quand même allée jusqu'à Waterloo. C'est grâce à son collier électronique qu'elle a été identifiée. Et les aventures de la petite vagabonde noire et blanche à moustache ont enthousiasmé les Britanniques, si bien que la compagnie de chemin de fer, victime de la fraude féline, a décidé d'émettre une carte de transport pour Tilly. La voilà donc en règle. Et puis, donc, c'est une rencontre, on parle toujours d'animaux, c'est une rencontre hors du commun, et cette fois c'est dans le métro, pour les usagers du métro. C'était le 12 février 2025, une femme a été aperçue dans une station à Paris en compagnie d'un mouton tenu en laisse. Un mouton revêtu d'une couche culotte, oui, c'est vrai, tant qu'à faire. Quelques heures auparavant, en fin de matinée, la dame, qui était accompagnée donc de son animal de, dirons-nous, compagnie, avait emprunté un taxi à Nancy. Et selon le chauffeur, la propriétaire de l'animal venait de Pologne pour rallier la capitale. Et la SNCF aurait refusé que le mouton monte à bord. On se demande bien pourquoi. Et pour conclure, le Vertige de la Tour, c'est une attraction qui va bientôt se terminer et qu'il faut faire. C'est une attraction qui va ravir les amateurs de hauteur, autant qu'elle va tétaniser ceux qui ont peur du vide. C'est jusqu'au 9 mars 2025. La Tour Eiffel propose à ses visiteurs de traverser un pont en filet de 40 mètres suspendu au premier étage, à 60 mètres au-dessus du sol. Les amateurs de sensations fortes sont invités à se rendre au premier étage au moment de leur redescente. Après s'être inscrit, c'est gratuit, avec un QR code disponible à côté de l'attraction, sur la terrasse et dans le bistrot. Un créneau est disponible toutes les 15 minutes. Cette passerelle a été réalisée par la société spécialisée Arboricord et est 100% sécurisée, la passerelle étant intégralement encagée. Ce pont urbain, le plus haut de France, est donc extrêmement solide et maintenu en place par de multiples câbles parallèles et latéraux. Sa résistance s'élève donc à 30 000 kg, ce qui devrait rassurer les plus perplexes et les plus inquiets. Tout le monde peut donc y aller sans aucun problème.
Merci Fabien, et c'est déjà la fin de cette matinale. Alors merci beaucoup à vous auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés. Merci à nos invités de ce soir, c'était Clélia Abraham qui a sorti son album le 7 février et Elisa Goudin-Steinmann avec qui nous avons parlé des élections en Allemagne. Merci à Théophile, merci à Isnel pour son flash info, merci à Francesca et Fabien pour leur chronique, merci à Alice pour le Zoom et merci à Simon à la réalisation. Moi à l'animation, c'était Maïwenn et je coordonne aussi cette matinale. Restez sur Radio Campus Paris car je crois bien qu'il se passe quelque chose juste après et surtout retrouvez-nous demain à 19h pour une nouvelle matinale. Et ce week-end, ne partez pas car pour la Journée internationale des droits des femmes, Radio Campus Paris vous prépare un gros programme. Tout d'abord samedi 8 mars de 13h à 15h sur le DAB+ et sur le site internet radiocampusparis.org. Retrouvez l'émission Santé les Russes, une émission spéciale qui abordera la question de la santé dans une perspective féministe. Et le 9 mars, on vous retrouve en hors les murs au Sample à Bagnolet avec l'émission Au pays des rêves qui vous a préparé un super programme avec un plateau radio, des tables rondes, des interviews et on finit de manière festive avec des DJ sets. Donc ce sera dimanche de 16h à 21h30 au Sample. On espère vous y voir nombreux et en attendant, passez une bonne soirée sur Radio Campus Paris.